France Inter.
Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus dans Grand Bien vous fasse. Comment expliquer notre fascination pour les faits divers, longtemps méprisés et pourtant adulés par une large portion du public, 63% selon un récent sondage pour La Croix Hebdo. Mais pourquoi les faits divers nous captivent-ils à ce point? Affaire Grégory du Petit Émile, affaire Jonathan Daval, Xavier Dupont de Ligonnès, Guy Georges, des affaires qui nous confrontent à la question du mal, le fait divers, un reflet des déviances que nous avons un jour envisagées. Fantasmer ou rêver, généralement sans les accomplir. Meurtre, vol, viol, nous rappelle l'historien des médias Patrick Evenot. Mystère du passage à l'acte qui nous fascine quand il s'agit d'hommes et de femmes qui nous ressemblent. Pourquoi ont-ils un jour franchi la ligne? Élément de réponse ce matin avec nos invités, la journaliste Patricia Touranchot, l'écrivain Nicolas Carreau et le philosophe Emmanuel Roux. N'hésitez pas à participer à notre conversation au 01 45 24 7000 et sur l'appli Radio France. Racontez-nous pourquoi les faits divers vous fascinent un peu, beaucoup ou alors pas du tout. Bienvenue dans Grand Bien vous fasse, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Grand Bien vous fasse, Ali Rebbi.
Sylvie Reviriego, la presse l'appelait la dépeceuse de Tours. Il faut dire que son crime est abominable. La victime est sa meilleure amie, son amie d'enfance. Elle l'a tuée et découpée en morceaux. Et elle a gardé la tête dans un seau. La tête qu'elle a finalement fracassée à coups de marteau et qu'elle a fini par cuire au four, position pyrolyse, à 350 degrés. Pourquoi? On ne le saura jamais. Car Sylvie, mensonge ou simulation, prétend qu'elle est devenue amnésique, qu'elle a tout oublié. Elle prenait un cocktail de médicaments pour maigrir. Ces médicaments l'ont-ils rendue folle? Sylvie a-t-elle été victime de ce qu'on appelle une psychose médicamenteuse? Ou mérite-t-elle de passer une bonne partie de sa vie en prison?
Bon appétit si vous prenez un petit déjeuner tardif. L'émission culte Faites entrer l'accusé avec Christophe Ondelatte. Bonjour Patricia Touranchot.
Bonjour.
Vous êtes autrice, journaliste. Vous avez été embauchée en 1990 à Libération et vous y êtes restée pendant 25 ans. Vous êtes fait diversière et vous revendiquez ce titre avec fierté et vous rassemblez 69 de vos articles, de vos milliers d'articles dans rubrique Faits divers au seuil. Vous assumez d'être une fée diversière et d'ailleurs, vous n'aimez pas beaucoup ce terme à la mode true crime. Il vous agace.
Mais oui, mais bien sûr, le true crime, c'est le fait divers. Un fait divers, c'est hyper large. Ça part du chien écrasé, ça va jusqu'à l'attentat. Et voilà, il y a des plus petits faits divers, il y en a des énormes, mais ça brasse en fait tous les crimes et les délits, toutes les rumeurs, tous les accidents, tous les incendies, les suicides, les histoires d'animaux, les histoires insolites, et c'est profondément humain, et c'est pour ça que je trouve que le fait divers est une matière noble.
Et votre livre se découpe en plusieurs chapitres, génération tueur en série, un chapitre consacré aux crimes au féminin, aux tueurs de masse, et puis également au top espions et infiltrés, bien d'autres
oui, parce que
clients, entre guillemets, parce que vous les appelez clients.
comme mais dans oui, la c'est police. Mes clients attitrés depuis 35 ans. J'ai droit à ces criminels, ces lâches, des fourbes, des voleurs. Il y en a dans tous les sens, avec des traits de caractère totalement différents. Et je voulais montrer dans ce livre, en 14 parties thématiques, la variété, justement, des faits divers.
Bonjour Emmanuel Roux.
Bonjour.
Vous êtes agrégé de philosophie et vous publiez avec votre frère Mathias chez Actes Sud Le goût du crime, enquête sur le pouvoir d'attraction des affaires criminelles. Alors vous, le goût du fait divers, inné dans l'enfance. Hein. Quand vous suivez les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, ça ne nous rajeunit pas, mais également les chroniques judiciaires de Paul Lefebvre sur Antenne 2, extraordinaire chroniqueur judiciaire. Et puis il y a aussi les articles de Patricia Touranchot et de Florence Obna dans Libé dans les années 90.
Et bien sûr, moi j'appartiens à une génération qui a connu, en fait il y avait encore la peine de mort, donc les affaires criminelles étaient des affaires souvent qui avaient une dimension judiciaire extrêmement forte, avec les chroniqueurs, avec les avocats. Et puis effectivement, ensuite l'affaire criminelle est devenue devenue aussi très policière. Et c'est en ce sens, moi je me souviens très très bien des articles de Patricia dans Libé qui m'a aussi donné beaucoup, de ce point de vue-là, le goût du crime.
Il faut signaler que votre père était avocat, donc ça aide un peu à s'intéresser aux faits divers. Et puis, votre famille a été au centre d'un fait divers en 1941. Votre arrière-grand-père d'Avignon, qui habitait Avignon, a été abattu alors qu'il s'interposait dans une rixe.
Oui, c'était un avocat qui tentait une médiation, qui a été assassiné par un frère. Il tentait une médiation entre deux frères et l'accusé a été condamné à mort. C'est d'ailleurs le dernier condamné à mort exécuté dans le Vaucluse en 1943. La légende familiale, et je crois que c'est vrai, disait que mon arrière-grand-mère avait écrit au président de la République pour demander sa grâce, car elle était opposée à la peine de mort.
Bonjour Nicolas Caro.
Bonjour Ali.
Vous êtes journaliste et romancier, vous publiez chez Jean-Claude Lattès l'affaire Alfred Langevin qui met en scène un jeune journaliste qui couvre les faits divers au matin de Belprat. C'est dans un département imaginaire.
Voilà, c'est dans l'Ouest. C'est un département qui s'appelle l'Evremaine, qui est copié sur le Maine-et-Loire, je peux vous le dire, à vous.
Où vous avez grandi. Hein.
Où j'ai grandi, entre Nantes et Angers, effectivement, dans un petit village où il se passait rien.
Rien du tout.
Et je me disais, mais le journaliste doit rêver qu'il se passe un meurtre ou un truc incroyable. Et donc, dans mon roman, c'est un journaliste qui provoque des faits divers pour pouvoir les raconter.
Comme par hasard, il se retrouve toujours au bon endroit, au bon moment. Exactement. Hein, alors, les faits divers qu'il invente, parmi les quelques faits divers, il y a par exemple ce squelette retrouvé chez une retraitée, il y a ces poissons-ballons, il y a plein de faits divers assez improbables.
Oui, voilà, parce qu'il faut vraiment que ça fasse parler. Donc il empoisonne la rivière et les poissons, à cause d'une réaction chimique, se mettent à voler au-dessus de la rivière comme des ballons. Puis on en retrouve pendant tout le roman ensuite dans la campagne, un peu partout, des poissons volants comme ça, mais des vrais poissons volants. Il y a les pages 49 de tous les livres de la librairie locales qui sont arrachées, on ne sait pas pourquoi. Il y a tout un tas. Parce que l'idée, en fait, ce n'était pas de créer des faits divers, un incendie de grange ou un simple meurtre comme ça. Il fallait qu'il y ait un truc un peu incroyable qui puisse faire venir justement toute la presse internationale dans ce petit village.
On verra au cours de cette émission le rôle fondamental de la presse dans le fait divers. Dans le fait divers, il y a le surgissement de l'extraordinaire dans la vie ordinaire, Patricia Tourancheau.
Ah oui, souvent, en fait, le crime et le fait divers est très démocratique. Et donc, il peut se passer n'importe où et chez n'importe qui, en fait. Et je pense que c'est ça qui fascine, qui attire les gens. Parce qu'ils se disent que ça aurait pu leur arriver. Ils se donnent un peu un frisson, en fait. C'est en même temps un repoussoir parce que c'est arrivé ailleurs, pas loin de chez nous, mais ça ne nous est pas arrivé à nous. Donc, ça fait partie de cette attirance pour le fait divers, je crois.
Emmanuel Roux.
Oui, je prends souvent la comparaison de l'accident d'autoroute, où finalement on roule, on ralentit, on regarde sans vraiment regarder, avec cette espèce de mélange à la fois de compassion et en même temps de soulagement ou d'assurance que ce soit pas arrivé à nous. Et en fait, dans l'affaire criminelle, il y a cette espèce à la fois de proximité avec le basculement qui peut arriver, mais le fait en même temps qu'on se sent protégé parce que ce sont les autres et c'est pas nous, même si on sait que ça peut arriver à tout le monde. En fait.
Exactement.
Et c'est vrai, Nicolas Caro, que dans votre livre, dans l'affaire Alfred Langevin, on voit bien ce surgissement de l'extraordinaire dans la torpeur et le banal de nos vies.
Oui, dans le village tranquille où il se passe rien, et c'est génial qu'il s'y passe rien en fait, hein, quand on est dans la paisibilité comme ça, que tout va bien, mais tout à coup surgit quelque chose d'extraordinaire. Alors moi j'en fais quelque chose d'encore un peu plus extraordinaire que la réalité, parce que c'est un roman, donc j'essaye d'y mettre encore un peu plus, mais c'est ça ce qui fait que ce village tout à coup devient connu internationalement alors que personne ne le connaissait. C'est extraordinaire dans l'ordinaire, cette confrontation, ce choc, ce contraste finalement.
Et dans ce village de Belprat, ça fait parler, hein, chez René, dans le café chez René, ça fait
chez
parler.
Et au Cheval Blanc.
Mais c'est ça qui est extraordinaire dans le fait divers, c'est que ça crée du lien social à la machine à café, au café. C'est l'une des fonctions du fait divers, Patricia Tourancheau.
Bien sûr, les gens, c'est les causeries autour de la machine à café, dans les bistrots, dans les familles, ils
ont tout le monde a ses théories, hein, sur Xavier Dupont de Ligonnès, sur l'affaire Jonathan Daval, sur l'affaire Agathe en ce moment, sur l'affaire du petit Émile. On a tous notre avis sur chacune de ces affaires.
C'est avoir une histoire à raconter, un fait divers. C'est pour ça qu'il y a une fascination, à mon avis. Et c'est fascinant aussi qu'on s'intéresse aux faits divers. Moi, pendant très longtemps, le fait divers, je trouvais ça crado et malsain, et j'aimais pas du tout ces histoires-là. Mais c'est que j'étais pas tombé sur les bons journalistes et les bons écrivains pour en parler. Mais dès qu'il y a du style, et surtout surtout dès qu'il y a du respect pour le fait divers, là ça devient très 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 intéressant parce qu'on plonge dans la condition humaine et on plonge en soi-même même parfois. C'est ça ce qui devient très intéressant et des journalistes comme Patricia Tourancheau, on l'entend, c'est un personnage elle-même, donc elle fait vivre et elle donne du respect.
C'est une plume extraordinaire. Je vous...
Mais
c'est vrai, Emmanuel Roux, vous étiez fan quand vous étiez plus jeune.
Ah bah oui, et puis moi j'ai de toute façon, j'ai une grande partie de ce que j'essaye de faire sur le goût du crime, ça vient des lectures du Grélé, de Grégory, des postiches, de l'affaire Fourniret, du Magot. C'est en termes factuels, c'est des histoires qui sont tout à fait extraordinaires.
Mais c'est hyper sympa parce que lui, il théorise, Emmanuel Roux, il arrive à sortir de tout ce fatras d'histoires que j'ai pu traiter ou pas, hein, et d'autres histoires, des théories, des enseignements hyper intéressants.
Sur le fait divers qui fait parler Emmanuel Roux.
Moi, je fais une toute petite différence entre le fait divers
et les affaires criminelles.
Et l'affaire criminelle, parce que finalement, le fait divers, au fond, il passe. C'est-à-dire que il y a plein de faits divers dont on se souvient pas du tout, et même d'ailleurs qui nous marquent pas forcément. C'est pour ça d'ailleurs que je parle d'attraction plutôt que de fascination, parce que l'affaire criminelle, elle vient à vous, elle vous attire à vous, parce qu'elle est restée dans l'histoire, elle est devenue un fait social, elle est devenue un élément de culture populaire, un peu comme le foot, c'est-à-dire on peut en parler tout le temps, on peut refaire le match, chacun peut donner sa théorie, c'est très démocratique, il n'y a pas les gens qui savent, les gens qui ne savent pas, tout le monde peut avoir son avis. Et c'est ça pour moi, c'est ce côté vraiment qui résiste au temps, qui reste dans l'imaginaire, qui a une dimension à la fois culturelle, politique, sociétale, enfin, plein de dimensions, qui est tout à fait extraordinaire et qui, pour moi, le distingue un tout petit peu du fait divers, du quotidien.
Mais par commodité, ce matin, on englobera dans le fait divers les grandes affaires criminelles. Nicolas Caro.
Non, c'est pas du tout pareil de s'occuper de l'affaire Grégory, terrible, et de s'occuper de l'affaire des braqueurs de Kim Kardashian. Patricia a fait un livre génial qui s'appelle Les Papris Braqueurs là-dessus. C'est hyper marrant, évidemment. Il n'y a pas trop de risques à y aller. Mais quand
ou
on
alors,
parle du petit Grégory.
Vos histoires de poisson-ballon.
Dans le roman, je peux y aller, je peux me faire plaisir, mais quand c'est une réalité avec un meurtre, on a éventré la vie privée des gens, il faut énormément de respect pour ça.
Et puis Patricia Tourancheau, vous le dites dans votre livre, vos clients sont violents, menteurs, fourbes, jaloux, crapules, haineux, magouilleurs, psychopathes, pour reprendre vos mots, c'est un concentré d'humanité qui donne envie de s'isoler sur une île déserte. Comment on se nettoie de tout ça, de ce concentré d'humanité inhumaine ?
Derrière chacun, malgré tous les défauts là que vous avez cités, que j'écris dans ce livre, j'essaye derrière chaque fait divers, chaque affaire criminelle, de chercher l'humanité. Et franchement, on arrive toujours à en trouver. Même le pire des criminels, j'arrive à trouver dans l'enfance de Guy Georges des clés de compréhension. Le tueur de l'Est parisien dans les années 90, qui a été condamné pour avoir assassiné, égorgé 7 jeunes femmes et violé aussi. Et lui, c'est un bébé abandonné à l'âge de 2 mois et par sa génitrice. Et ça, par exemple, voilà, on arrive à comprendre un petit peu des éléments de sa bascule future. Et puis aussi, là, il y a un côté humain. C'est plus difficile à trouver derrière Fourniret, Michel Fourniret, le tueur en série des Ardennes, qui est glauquissime, perversissime avec sa femme. Mais voilà, derrière chaque affaire criminelle, il y a de l'humain.
Votre mantra, c'est cette phrase de Simenon, ultra célèbre, comprendre et ne pas juger. Emmanuel Roux.
Oui, sur Guy Georges, ce qui est absolument fascinant, c'est notamment la fin du procès. Où justement, alors qu'il a été dans le déni, alors qu'il a presque nargué les victimes, à un moment, il dit « oui, c'est moi ». Et il s'interroge à voix haute en disant « mais qui suis-je, Guy Georges, pour avoir commis ?» Et cette réflexion sur l'identité, qui finalement, c'est ça à quoi sert un procès. Un procès, c'est à un moment, on attend de l'accusé, finalement, qu'il fasse retour sur lui-même, qu'il revienne dans le monde, d'une certaine manière, de l'éthique, dans le monde des hommes, qu'il s'interroge sur lui-même, parce que c'est ça le chemin, d'une certaine manière, d'une, entre guillemets, rédemption. Et ce qui est fascinant dans cette histoire, c'est qu'effectivement, c'est le monstre absolu, mais qui, à la fin, essaye de s'interroger pour comprendre ce qu'il est lui-même.
Ouais, il dit « c'est pas moi, en fait, c'est moi et c'est pas moi ». Il y a deux Guy Georges, il y a Joe le trappeur et puis il y a Joe le killer. Et lui-même était face à une incompréhension totale de qui il était, quoi. Non, et sur l'identité, il faut comprendre aussi que sa mère ne l'avait pas abandonné officiellement. Et du coup, quand à 6 ans, il a été vraiment remis à la DAS, on lui a changé son identité. On lui a dit, tu t'appelles plus Guy Rampillon, on prend ton deuxième prénom, tu t'appelles Guy Georges. À 6 ans, un enfant, il se rend compte de ça.
Bonjour Marie-Laure Sonnenschein.
Bonjour Ali.
Rédactrice en chef à Femmes Actuelles, vous auriez fait une excellente flic, je pense. Au menu de vos questions toujours pertinentes.
Quels sont les critères de la fascination, puisque tous les faits divers ne se valent pas, et en quoi est-ce un sujet fédérateur ?
Bonjour Éric Quilliot.
Bonjour Ali.
Tu aurais fait un excellent indique, chroniqueur à lire notamment. Quel est le menu de votre petite mythologie des objets ?
Eh bien écoutez, comme je vais parler de Conan Doyle et de métonymie, je vais tout naturellement parler de la loupe.
Et merci à vous, chères auditrices et auditeurs. Vous êtes 1 300 000 à nous écouter tous les matins. Merci de faire de Grand Bien Vous Fasse l'émission numéro 1 devant RTL.
Grand Bien Vous Fasse.
Mais alors tu rentres avant 6 heures, s'il te plaît, tu ne parles à personne. Hein. Si jamais tu as absolument besoin de parler à quelqu'un, tu ne t'adresses qu'à une dame. Hein. Tu m'entends ? Qu'à une dame.
Pourquoi ?
T'as envie de passer 10 ans dans une cave, comme Natacha Campouche ?
Sur France Inter.
Quelle horreur. Et ce matin, nous explorons notre fascination pour les faits divers. Selon une enquête en jeu public pour La Croix Hebdo, 63% des Français disent suivre avec intérêt les faits divers et 30% estiment même que les médias ne leur donnent pas une place assez importante. Patricia Touranchot, je rappelle que vous êtes journaliste et réalisatrice de documentaires. Le fait divers est-il encore un genre méprisé par rapport à vos débuts à Libération en 1990 ? Vous avez contribué à rendre noble cette matière du fait divers, il faut le dire. Hein. Qu'en est-il en 2025 ?
Je pense que le fait divers est moins méprisé aujourd'hui qu'à l'époque. Sauf que je remarque quand même qu'il y a un clivage encore plus important aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a des émissions, des plateformes, des podcasts, enfin, qui permettent de bien traiter le fait divers dans toutes ses dimensions. Mais il y a aussi une multiplication des chaînes, de la TNT, etc., avec des émissions, true crime, glauquissime, bas de gamme, et ça, c'est pas terrible.
Emmanuel Roux, je rappelle que vous êtes philosophe et que vous avez publié Le goût du crime, enquête sur le pouvoir d'attraction des affaires criminelles.
En fait, les gens ont du mal à dire qu'ils s'intéressent aux affaires criminelles. Il y a une espèce de non-dit, mais quand on commence à discuter un peu, on voit qu'en fait, ça intéresse quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Alors, c'est vrai que ça reste quand même un peu un élément de distinction, c'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé avec mon frère à faire ce livre, en disant « Ah bon, tu t'intéresses à ces trucs ?» Enfin, c'est quand même assez glauque, etc. Et avec toujours cette idée aussi qui avait été popularisée à l'époque par Pierre Bourdieu, hein, le fait divers fait diversion, il nous empêche de voir les vrais problèmes, etc. etc. Mais ça reste, ça peut rester prégnant dans une partie de la population, mais quand on creuse un peu, on voit qu'en fait les gens s'y intéressent beaucoup, lisent beaucoup, et comme le disait Patricia, le fait qu'on a des émissions qui maintenant abordent le fait divers dans toute sa globalité, hein, pas simplement d'un point de vue purement policier ou judiciaire, mais d'un point de vue psychologique, d'un point de vue sociétal, fait aussi qu'il y a une sorte de, un peu, quand même de montée en gamme qui fait que les gens s'y intéressent quand même plus qu'avant.
Nicolas Caro, vous êtes écrivain, je rappelle que vous avez publié l'affaire Alfred Langevin. Les écrivains ont aussi contribué à cette montée en gamme. Alors évidemment, on se rappelle de Truman Capote et de Sang-Froid, mais depuis, il y a eu de nombreux romanciers, comme Emmanuel Carrère, qui ont ennobli le fait divers et les affaires criminelles.
Exactement, c'est une affaire de style, ouais. Comme dit Agatha Christie, bien sûr. C'est prendre ce matériau du fait divers et le respecter et en faire quelque chose d'autre, sublimer la réalité d'une certaine manière, et aller au fond des choses et s'intéresser à l'humain qu'il y a derrière ce fait divers et pourquoi, et les mécanismes humains et psychologiques qui sont derrière. Et pour ça, il faut du style, il faut apporter quelque chose d'autre, en fait, que la simple matière qui est... Le fait divers, c'est glauque, en général, c'est pas très malin. Dans un polar, dans un Sherlock Holmes, vous êtes bien placé pour le savoir, Ali, dans un bon polar, et ben le type qui commet le crime est un peu malin, et on sait pas tout de suite ce qui s'est passé, et souvent c'est dans un milieu bourgeois, c'est intéressant. Il y a tout un tas de mécanismes sociologiques à l'intérieur. Et ben, dans la réalité, il faut le ressortir, ça, d'un pauvre fait divers, d'un type qui a tué par colère ou dans des choses comme ça, ou qui ne sont pas intéressantes du tout, sauf si on creuse et sauf si on va chercher.
Vous êtes d'accord avec ça, Patricia Touranchot ?
Ah mais oui, tout à fait. Moi, j'enquête beaucoup, je vérifie ce qui m'intéresse. Ce n'est pas simplement l'énigme policière ou l'enquête policière. Ça m'intéresse, le mécanisme, etc. Mais ce sont les gens qui sont derrière, que ce soit les victimes ou les criminels.
Les protagonistes.
Donc, je vais aller essayer de voir leurs familles, leurs amis, etc. Puisque eux, en général, quand ils sont arrêtés, ils sont en tôle. Mais c'est ça qui m'intéresse, de voir le parcours de la personne et comment, essayer de voir comment elle en arrive là.
De nombreux protagonistes des grandes affaires criminelles, comme Dominici, Omar Haddad, Francis Holm, Jonathan Daval, Xavier Dupont de Ligonnès, sont entrés, Emmanuel Roux, au patrimoine culturel des Français, au même titre que certains personnages historiques ou héros de fiction.
Oui, parce qu'à chaque fois, il pose une question absolument majeure. Parler de l'affaire Dupont de Ligonnès, ça met en jeu véritablement le fonctionnement de la cellule familiale dans sa profondeur. Vous parlez de Jonathan Daval, c'est un féminicide qui a remis d'ailleurs, qui a contribué à ce que la question du féminicide soit vraiment dans l'agenda politique, dans l'agenda social de notre pays. Vous parliez de Dominici, c'est probablement une des premières fois où une affaire a été à ce point médiatisée. Hein. Il y a eu Dominici, il y a eu Bruyère-en-Artois, puis après il y a eu évidemment l'affaire Villemain, où tout d'un coup on voit que l'affaire criminelle ou le fait divers devient un sujet médiatique. Donc toutes les affaires dont vous parlez, elles peuvent d'une certaine manière être exemplaires de quelque chose d'extrêmement important qui marque beaucoup les esprits.
Tout à l'heure, pendant le passage d'antenne, j'ai demandé à Amélie Perrier quelle était l'affaire qui l'avait marqué, elle a spontanément dit Xavier Dupont de Ligonnès. Qu'est-ce qui nous fascine, Emmanuel Roux, avec cette affaire, vous en parlez dans votre livre, c'est qu'il s'agit d'un homme ordinaire auquel on peut s'identifier et qui a commis l'irréparable, c'est-à-dire exécuter sa femme et ses enfants.
C'est une affaire hors norme, d'ailleurs on la met au début, c'est le premier chapitre du livre, parce que c'est une affaire qui les contient toutes, c'est une affaire gigogne, c'est une affaire sur le fonctionnement de la cellule familiale, c'est une affaire qui a aussi une dimension presque métaphysique ou religieuse, avec notamment ces dernières images où finalement il disparaît, mais il disparaît du monde des hommes pour rester dans notre imaginaire collectif de manière permanente. Et en 2019, quand on croit le voir à l'aéroport de Glasgow, c'est une espèce de résurrection et d'apparition. Vous vous souvenez d'ailleurs de cette espèce de folie.
Écoutez la folie médiatique de l'époque.
Après plus de 8 ans de cavale, c'est peut-être la fin de l'une des plus mystérieuses énigmes criminelles de ces dernières décennies.
Xavier Dupont de Ligonnès a été arrêté ce soir en Écosse.
Nous vous confirmons donc que cet homme arrêté à Glasgow, à l'aéroport, est bien Xavier Dupont de Ligonnès. Nous sommes en mesure de le confirmer.
Une source anonyme aurait informé la police écossaise que Xavier Dupont de Ligonnès allait monter dans un avion depuis l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle.
C'est vrai que c'est un peu embarrassant parce que si on apprend par exemple dans une heure que c'est pas tout à fait lui, on sera un petit peu dans l'embarras.
L'homme arrêté hier n'est pas Xavier Dupont de Ligonnès, c'est l'ADN qui a parlé, et l'ADN exclut le fait que ça soit lui.
C'est une dimension totalement irrationnelle, presque religieuse, d'une sorte de résurrection, auquel d'ailleurs on a voulu croire. C'est très intéressant. C'est une histoire très marquante aussi parce qu'elle est d'une énigme infini. Moi, je connais des gens qui sont très proches familialement de la famille Dupont de Ligonnès, qui connaissent le dossier par cœur et qui me disent lundi, je pense qu'il est mort, qu'il s'est suicidé, qu'il est dans une crevasse du Rocher d'Argence quand il sort du Formule 1 avec son truc sur l'épaule et dont on pense que c'est une carabine. Et mardi, je pense qu'il est au fin fond de l'Australie ou du Texas parce que c'est un type totalement passe-partout qui parle plusieurs langues et qui est capable de totalement se fondre dans la masse. Et le mercredi, je pense qu'il ment. Et c'est donc il y a cette espèce d'oscillation permanente qui fait que on est en permanence dans cette réflexion infinie qui dans laquelle on ne peut pas sortir, qui est complètement labyrinthique
et qui suscite auprès du public bien des spéculations. On a tous notre avis sur l'affaire Xavier Dupont de Ligonnès. Patricia Toranchot.
Je vais vous faire une confidence. Pour moi, il a disparu. Et il a disparu même, j'ai écrit 8 articles en 2011 sur l'affaire Dupont de Ligonnès, et j'ai totalement oublié d'en mettre un article dans rubrique Faits divers.
Dans votre livre.
Parce que j'ai tendance à penser qu'il est mort, et que quand il disparaît avec la carabine, le fusil de son père, avec lequel il a tué toute sa famille, sur le dos, dans les rocailles, et qu'un jour peut-être on le retrouvera dans un trou de la région.
Nicolas Carreau.
Non, c'est intéressant, il est en train de disparaître de la réalité presque, tellement il a disparu et qu'on a suffisamment d'éléments pour se faire une idée, et suffisamment peu pour que ça continue et que ça devienne un truc un peu mythique où chacun a sa théorie. En plus, alors effectivement, dès que... Moi je suis nantais et c'est pour ça aussi que c'est une affaire qui me passionne, parce que je connais des gens qui connaissaient soit les enfants ou qui connaissaient elle qui était surveillante dans un collège, où j'avais des cousines qui ont été, etc. Enfin bref, et tout le monde a Nantes, enfin tout le monde, j'en sais rien, mais beaucoup de gens disent ah mais ouais, mais moi, parce que j'ai un copain qui connaissait les trucs, qui connaissait machin, et ça crée une sorte de proximité avec cette affaire qui devient presque de la fiction.
Emmanuel Roux, j'aimerais vous citer le philosophe Merleau-Ponty qui écrivait que le goût du fait divers, c'est le désir de voir, et voir, c'est deviner dans un pli de visage tout un monde semblable au nôtre.
Oui,
sur l'identification, sur ce personnage banal, ce monsieur, cette madame tout le monde, qui va un jour passer à l'acte.
Alors, la question du passage à l'acte, elle est totalement fascinante, parce qu'elle, finalement, elle ouvre sur le mystère de l'identité elle-même. Dans le livre, on revient sur des meurtres qui sont peut-être moins médiatiques, même si on se souvient tous de l'affaire Bissonnet, cette espèce de crime à la Colombo, où il fait assassiner sa femme par son laveur de carreaux, etc. Où on peut, pendant des heures, se demander, mais pourquoi cet homme qui voulait se séparé de sa femme, finalement, n'a pas divorcé. Et pourquoi il a monté ce truc ? Il a monté ce stratagème dans lequel, d'ailleurs, il s'est pris complètement. Il y a d'autres affaires comme ça où, finalement, on est confronté toujours à cette question de mais au fond, pourquoi passe-t-il à l'acte ?
Et oui, c'est fascinant, ce moment de bascule, ce passage à l'acte, ce moment de bascule où l'irréversible est commis, irréversible pour autrui et pour soi, Emmanuel Roux.
Et il n'y a pas, en fait, il n'y a pas d'explication. C'est-à-dire que
c'est une question métaphysique. En fait, ouais, les experts psychiatres dans les tribunaux viennent souvent expliquer, notamment Daniel Zaguri, que la question
psychiatre
du passage
spécialiste
à
du sujet.
Elle est métaphysique. Par contre, ils peuvent expliquer le comment du pourquoi, comment ils en arrivent là, mais la bascule elle-même non, parce que on a tous des fantasmes de buter le type qui nous a fait une grosse crasse. Je vais le buter, mais on va jamais le faire. Et donc ça, c'est une question qui relève d'ailleurs.
Oui, on essaye de décortiquer finalement l'acte lui-même. Est-ce qu'on aurait une tendance au mal et il suffit d'une certaine manière que les barrières tombent pour que d'une certaine manière on passe à l'acte ? Bon. Est-ce que ça s'explique par des raisons sociales ? Est-ce que ça s'explique, très souvent, Christophe Ondelat dit, il parle de l'enfance fracassée des serial killers.
C'est vrai.
Enfin, il y a des tas de gens qui ont eu des enfances difficiles et qui ne sont pas non plus devenus des serial killers ou des criminels.
Oui, mais tous les serial killers sont des enfants fracassés.
Voilà.
Non, ce qui est Nicolas passionnant Caron. Aussi, c'est les passerelles qu'il y a entre fiction et réalité. Vous parliez de l'affaire Bissonnet. Arrêtez-moi si je me trompe, mais je crois que le laveur de vide qui était coupable s'est blessé le doigt en tirant sur la dame. Et
exactement.
Il est arrivé en garde à vue avec un long manteau qui cachait son pansement, en fait. Et donc le gendarme a monté la température pour que le gars enlève son manteau. Et si on met dans un roman, on se dit c'est too much. Et à l'inverse, il y a, je me rappelle d'une affaire où une femme avait tué son compagnon en faisant croire qu'il s'était étouffé avec son alter, et parce qu'elle avait vu un Colombo, 6 mois plus tôt, qui racontait cette histoire-là, et c'est une des gendarmes qui s'est dit, mais j'ai vu ce Colombo. Et c'est comme ça qu'elle a trouvé le poteau rouge.
Génial.
Vous imaginez bien que les flics, tous les flics de France connaissent tous les épisodes de Colombo par cœur.
Et ils disent, ça peut pas arriver, ça.
Exactement. Alors, ce qui fascine aussi, c'est la modalité du passage à l'acte. Patricia Touranchot, les modalités du passage à l'acte, c'est ce qui fascine également dans la figure du tueur en série. Et vous commencez votre livre, rubrique Faits divers, avec l'affaire Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, le tueur en série, ce descendant de Barbe Bleue, et je vous cite Patricia Touranchot, « Loin du silence des agneaux, les tueurs français contemporains sont plutôt des ratés de la vie, enfants violents, marginaux, errants, parfois débiles, voleurs, cambrioleurs ou détraqués sexuels qui ont basculé dans des crimes monstrueux. On est loin de la sophistication du héros du Silence des Agneaux, Hannibal Lecter.
Quand vous voyez Francis Saulme, le routard du crime, il est limite débile léger, quoi. Guy Georges, c'est un marginal. Même Fourniret, il est assez marginal. Mais depuis, on en a un quand même qui sort du lot et qui ressemble plus au serial killer américain dans le clivage et sa manière d'être très inséré dans la société. C'est le Grêlé, qui était un tueur en série, violeur en série de petites filles depuis 1986, qui a été recherché pendant 35 ans. Et à l'arrivée, on s'aperçoit que ce type-là était gendarme à la garde républicaine, régiment de cavalerie, donc le truc, vraiment, il défile au 14 juillet sur son beau cheval, il accompagne les chefs d'État, et ce mec-là était conseiller municipal, père de deux enfants, marié, faisait des petits plats à sa femme, etc.
Il était même passé dans une émission de Nagui.
Oui, parce qu'il avait pris sa retraite de tueur en série, et le mec, il va au jeu de Nagui, mine de rien. C'est incroyable. Donc celui-ci est différent de tous les autres en France.
Mais comment expliquer cette fascination pour les serial killers? Moi, à titre personnel, ils ne me fascinent pas, pour des raisons que vous évoquez dans votre livre. Mais comment vous expliquez cet intérêt pour les serial killers?
Parce que tenter de comprendre ces types-là, qui sont pas c'est pas le criminel d'un jour. Lui, il a un système, il a un fonctionnement qui fait qu'il ressent des pulsions à un moment donné. Guy Georges, il le disait, hein. Parfois le matin, je me lève, je ressens une pulsion, et enfin, il appelait pas ça comme ça, et je ressens un truc où je sais qu'avant la nuit, il faudra que j'aie tué. Et donc, c'était une pulsion de mort. Et ça, c'est vertigineux pour nous de comprendre cet enchaînement et cette pulsion qui vient de très loin et qui souvent est basée justement sur des failles archaïques de la personnalité tout petit. Hein. C'est pas quelque chose, c'est avant 10 ans que ça se passe, ce qui lui est arrivé. Et ce qui est terrible, c'est que les psys expliquent qu'à un moment donné, leur moi se dédouble et il faut recoller les deux morceaux du moi pour vivre. Et en fait, c'est en donnant la mort qu'ils vont recoller les morceaux d'eux-mêmes. Ce qui est un truc absolument abyssal et qui nous intrigue énormément.
Dernièrement, dans cette émission, l'écrivain Philippe Génada nous disait qu'il ne croyait pas à la figure du mal absolu à l'image de Michel Fourniret, d'Émile Louis, de Guy Georges ou de Dominique Pellicot. Pour Philippe Génada, ce sont des sales types affreux et méchants qui ont commis des actes monstrueux, mais qui ne sont pas le mal incarné. Vous êtes d'accord avec ça,
Patricia Toranchou ? Je suis d'accord avec mon ami Philippe Génada. Les monstres n'existent pas, hélas. Enfin, parce que ce serait facile de se dire c'est une bête du Gévaudan, c'est un gros monstre, c'est un alien, c'est je ne sais quoi. C'est pas ça. Ils commettent des actes monstrueux, mais hélas, ce sont des êtres humains comme nous. Ils ont été des bébés comme nous, des petits garçons, des petites filles. Et il y a un moment, il y a un déraillement. Dans tous les faits divers, ça déraille. Et eux, ils ont totalement déraillé.
Emmanuel Roux, vous êtes d'accord ?
Je pense quand même qu'il y a des criminels en Syrie qui sont marqués par une forme de perversité irréversible. Je pense que Fourniret, c'est la perversité irréversible. Je ne dirais pas ça de Guy Georges, je ne dirais pas ça de Patrice Allègre. Mais pour revenir sur Francis Vérov, sur le grêlé, c'est vrai que là, c'est véritablement totalement fascinant. Parce que c'est quelqu'un qui a une sociabilité totalement normale. Qui a pu commettre sur une très longue période des crimes absolument épouvantable. Il s'en est pris à des enfants. Il a commis dans le Marais un crime sur un couple en les attachant d'une certaine manière, etc.
Voilà. Torturé.
Et qui ensuite, de manière, je dirais, extrêmement brutale, bascule dans une forme de sociabilité normale en cochant toutes les cases. Vous avez dit effectivement conseiller municipal, bon père, bon époux, etc. Et là, de ce point de vue-là, là, c'est vrai que là, on peut pas dire que la question du mal, elle surgit parce qu'on se dit finalement, comment est-ce qu'on peut se séparer, quitter ces oripeaux du mal pour endosser le costume de la respectabilité. Ça, c'est complètement incompréhensible.
Nicolas Carreau.
D'où l'intérêt du temps long et de la précision. Philippe Génada, qui est quand même un des génies du genre,
on peut le dire.
Il prend 700 pages, mais pas pour se faire plaisir, simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et qu'il faut être précis tout le temps et prendre le temps de bien tout regarder et tout analyser. Et c'est à la fin qu'on voit une sorte de tableau comme ça, magnifique, où on comprend en fait ce qui s'est passé.
On peut citer La Serpe, hein,
La Serpe,
notamment.
C'est génial, c'est le plus génial.
Vous prétendez des monstres aussi, l'affaire Lucien Léger.
Question de Marie-Laure Zonshine, de Femme Actuelle.
Oui, Patricia Touranchois, vous écoutez les uns les autres. Bon, vous avez une connaissance absolue hein, des serial killers dont vous parlez ou des auteurs de ces crimes que vous avez cités. Mais est-ce qu'on pourrait, je ne sais pas, projetons-nous dans le prochain fait divers qui va avoir lieu dans quelques mois, est-ce qu'on peut imaginer finalement qu'il y a des critères de fascination ? Qu'est-ce qui fait que dans la prochaine affaire qu'on ne connaît pas encore, celle-ci va fasciner et pas la précédente ? Est-ce que c'est le manque d'élucidation ? Est-ce que c'est le déroulé des faits ? Est-ce que c'est les rebondissements ? On parlait tout à l'heure de Jonathan Daval, le conjoint éploré, qui est en fait le meurtrier présumé, le milieu social aussi, une forme d'originalité, si je puis dire, dans le modus operandi, au sens de première fois. Qu'est-ce qui va faire de ce futur fait divers, que nous ne connaissons pas encore, quelque chose qui va fasciner l'ensemble de la société ou une grande partie d'entre elles?
Ben, ce sont tous les ingrédients et tous les éléments que vous avez cités. Un fait divers qui va marquer, il est en raison de tout ça. Il y a une énigme, il y a une part de duplicité du Jonathan Daval qui va aller pleurer sa femme alors qu'il l'a tué. Il y a la figure du petit Émile parce que c'est un enfant qui ressemble à Grégory, dont on va être frappé par ce petit garçon très beau avec sa fleur et on se dit c'est la victime. Le petit Émile, oui, comme le petit Grégory.
Grégory, effectivement.
Avec une histoire visiblement intrafamiliale, ou en tout cas qui se passe dans un huis clos, comme ce petit hameau où il y avait 17 personnes ce jour-là. C'est plein d'ingrédients de ce genre. Après, il y a l'énigme. Le fait que l'affaire Dupont de Ligonnès, elle fascine autant les gens, c'est parce qu'on ne sait pas ce qu'il est devenu. Et du coup, est-ce qu'il est mort? Est-ce qu'il est quelque part à l'étranger? C'est ça qui fascine. Mais il y a pas de règle. C'est à la fois tous ces ingrédients-là. Et y en a qui vont prendre plus que d'autres. Grégory aussi, ça se passe dans un petit village des Vosges, un mouchoir de poche, dans une famille avec un corbeau qui a harcelé cette famille déjà 2 ans avant l'assassinat de Grégory. Donc ça fait partie des ingrédients qui vont marquer les gens.
Et puis des émotions universelles comme la jalousie, l'envie, la colère, évidemment. Il est 10h43, il est paisible, il n'est pas en colère, il attend tranquillement... son heure, la petite mythologie d'un objet du quotidien avec Éric Libiot.
Ne dit-on pas des objets inanimés?
Grand bien vous fasse.
Et la question s'est posée à mon esprit fulgurant.
Ali Rebéi.
Objets inanimés, avez-vous donc une âme?
Sur France Inter.
Éric Libiot.
Alors autour de cette table, on l'a entendu, il y a une belle brochette de faits diversiers et de faits diversières qui regarde l'époque à la loupe, et dans cette phrase, il y a 2 objets dont je pourrais me servir aujourd'hui. D'abord brochette, parce que c'est bientôt le temps du barbecue, et loupe, parce que c'est celui que j'ai choisi. Alors la loupe n'est pas un objet si courant, elle se range dans un tiroir et en sort de temps en temps, mais c'est un objet vite reconnaissable. Un manche et une grosse lentille convexe, surtout si on n'est pas gentil avec elle, parce qu'on le sait, une loupe peut rendre flou. Et pour l'éviter, il faut qu'elle soit à bonne distance entre l'œil et l'objet observé. Tout bon journaliste et toute bonne journaliste le savent. Tout est une question de distance lorsqu'on veut rendre compte d'un fait, qu'il soit divers ou pas. Car pour faire le tour du fait divers, il faut regarder et regarder mieux, ne cesser de regarder pour comprendre ce qu'il faut raconter. Un fait divers, c'est aussi une énigme, vous l'avez dit, qu'il faut élucider à la manière de Sherlock Holmes, qui ne se piquait pas de faits divers, mais d'héroïnes. D'ailleurs, chez Sherlock Holmes, qu'on a souvent dit misogyne, il y a des héroïnes dans les nouvelles qui relatent ses aventures, et notamment la toute première nouvelle, Un scandale en Bohême, où apparaît Irène Adler, une des rares femmes d'ailleurs à mettre Sherlock Holmes en échec, ce qui n'arrive pas tous les jours, un vrai loupé pour le locataire du 21 Baker Street. J'en parle parce que dans beaucoup d'illustrations, on voit Sherlock Holmes pipe à la bouche et loupe à la main, en train d'observer la cendre du cigare d'un suspect ou les poils déposés sur le revers du costume d'un... disparu. Mais le héros de Conan Doyle n'est pas le seul à se promener une loupe à la main. Il y a aussi Alain Rey, le Sherlock Holmes de la langue française, qui enquête sur la généalogie des mots à partir de la cendre d'une voyelle ou d'un poil de consonne. Et dans son dictionnaire historique de la langue française, Alain Rey s'interroge, mais d'où vient la loupe? Comment faut-il regarder ce mot et cet objet pour qu'il se révèle? Et je vais tout de suite évacuer une explication dont ne parle pas Alain Rey. Loupe n'est pas le féminin de loup. Et pourtant, ce serait assez séduisant comme idée, puisque dans un fait divers, il est souvent question de débusquer un loup, un truc caché ou dissimulé. Ça a l'air idiot comme explication, mais pas tant que ça, on va le voir. Alain Rey l'écrit lui-même, loupe a une origine floue, ce qui n'est peut-être pas un hasard finalement. À l'origine, loupe désigne une pierre précieuse présentant un défaut, et de fil en aiguille et de diversion en métonymie, comme souvent dans la langue française, la loupe désigne un kyste indolore, puis une excroissance sur un arbre ou sur une pièce de métal, et par extension, la loupe, l'objet, vient de la forme bombée de la lentille. Et si je ramasse tous ces indices pour les regarder là aussi à la loupe, j'en conclus que le fait divers serait finalement l'excroissance d'une histoire trop lisse. S'il y a un loup dans le fait divers, il y a aussi une loupe.
La petite mythologie d'un objet du quotidien d'Éric Libiot. Bravo. Tous les épisodes, bravo de Patricia Touronchot,
c'est pas mal. Franchement, c'est génial.
Et vos chroniques sont à retrouver sur l'appli Radio France.
Grand bien vous fasse. Sur France Inter.
Et ce matin, on s'intéresse à notre fascination pour les faits divers. La presse, hein, qui joue un rôle essentiel dans le fait divers. Dans votre livre, Nicolas Caro, l'affaire Alfred Langevin, il se passe donc de drôles de faits divers du côté du village de Belprat, en Èvre-et-Maine. C'est évidemment un département fictif. Dans les années 90, un journaliste est soupçonné d'avoir inventé un tas de petits faits. Le squelette retrouvé dans le jardin d'une retraitée, des poissons ballons volants, des chiens hypnotiques. Et ce journaliste du matin de Belprat est toujours là au bon moment. Aurait-il tout inventé? On ne va pas trop en dire quand même, parce qu'il y a un retournement au cours du livre. Mais sous la farce se posent des questions intéressantes, Nicolas Caro. Le directeur du journal, Adhémar Flâne, je ne sais pas où vous trouvez tous ces noms, Adhémar Flâne, il a de gros soupçons sur son journaliste. Et il pose la question suivante. Définir ce qui déclenche l'acte d'achat chez un lecteur reste une science complexe. Et si nous avions une recette, les avanies économiques de nos bons vieux journaux ne seraient qu'une histoire ancienne.
Oui, il est un peu paternaliste aussi, Adhémar Flâne. Mais en fait, vous faites bien de préciser que ça se passe dans les années 90.
Parce 1995, que... précisément.
Ouais, j'ai pas de critique ou de dénonciation dans mon roman. C'est un roman. Mais s'il y en a une, c'est plutôt les réseaux sociaux, en fait. Parce que tous les faits divers que je décris dans ce roman et qui se passent dans les années 90 sont des trucs qu'on retrouve sur les réseaux sociaux en permanence maintenant. Il suffit d'ouvrir n'importe quel Twitter ou Instagram, on tombe sur des affaires complètement incroyables d'un crocodile qui a fait ci ou d'un surfeur qui a fait ça. Un truc où on se dit c'est complètement fou, ça peut pas exister. Et si, ça existe. Mais il y en a tellement. Ouais. Et tellement l'un chasse l'autre que ça devient n'importe quoi. Alors que avant, d'une certaine manière, il fallait aller chercher dans la presse locale des faits insolites. Mais il y a une sorte de théorie statistique qui dit que tous les faits insolites peuvent pas se passer au même endroit, au même moment. Donc il fallait varier les presses locales. Là, dans mon roman, tout se passe au même endroit, au même moment. C'est ce qui fait que bon, ça prend une ampleur assez considérable.
Roman très truculent, Nicolas Caro. Les faits divers restent un vecteur d'audience fondamental hein, pour les chaînes info comme BFM TV, hein, qui en ce moment traite beaucoup de l'affaire Agathe. Et Thierry nous dit la fascination pour les faits divers n'est-elle pas tout simplement suscitée artificiellement de toutes pièces par les médias, particulièrement sur les chaînes d'info, puis par en relais sur les réseaux sociaux. Votre regard, Patricia Toranchon, vous qui êtes une femme de la presse écrite.
Ouais, mais
quel regard vous portez
les médias télévisés actuels, enfin les chaînes d'info en continu, favorisent évidemment le fait que les téléspectateurs vont être accros à tel ou tel fait divers, parce qu'ils nous bombardent en boucle toute la journée. Or, tous ne vont pas rester quand même dans la mémoire collective. Et moi, pour avoir travaillé en presse quotidienne régionale, j'ai commencé avant Libération à Ouest-France, et à Ouest-France dans le Finistère. Donc je travaillais dans la commune de Douarnenez et après à Quimper. Et un fait divers qui m'arrive au départ, c'est un taureau qui s'échappe de l'abattoir. Ben voilà, ben on va, on court derrière le taureau, on suit le vétérinaire qui n'arrive pas en fait à le neutraliser avec une seringue hypodermique parce qu'il a le cuir trop épais. Et le taureau casse des clôtures.
On se croirait dans votre roman, Nicolas Caro.
Mais non, mais moi, mais quand je l'ai écrit, je pensais vraiment pas que ça arrivait. Et quand j'en parle de mon roman, maintenant, il y a toujours un journaliste pour me dire « Ah, mais c'était Fredo qui était correspondant dans tel endroit. » C'était pas à ce point-là quand même, mais qui gonflait un peu l'idée, quoi.
Mais il est génial, ton roman. Franchement, moi, je me suis régalée. J'ai reconnu l'atmosphère de la presse locale de l'époque.
Emmanuel Roux.
Vous faisiez peut-être une opposition entre presse écrite et presse audiovisuelle. Il faut quand même rappeler que dans l'affaire de Bruyères-en-Artois, c'est La Cause du Peuple, le journal de Serge Julie, qui fait du notaire, parce qu'il est bourgeois, le coupable. Dans l'affaire Grégory, c'est quand même Paris Match qui invente de toutes pièces la culpabilité. Alors, bien aidé par le juge, par l'avocat, bien aidé par tout un contexte, mais c'est quand même Paris Match qui invente à un moment la culpabilité de Christine, qui met en scène
dans
des photos...
Grégory, hein.
Dans l'affaire Grégory. Qui met en scène des photos entre Jean-Marie, Christine, etc., comme si... Voilà. Et donc c'est quand même la presse écrite qui, souvent, fabrique le coupable. Hein.
Et le couple Bézina, surtout dans l'affaire Grégory, on a un couple...
Jean-Michel Bézina, qui était journaliste RTL,
et qui trustait plein de correspondances de journaux avec sa femme Marie-France. Et c'est eux, au départ, encore avant Paris Match, qui vont ériger Christine Villemain en mère infanticide, en sorcière. C'était dégueulasse.
Et vous le racontez très bien dans votre documentaire Grégory sur Netflix. Hein.
Oui, que j'ai co-réalisé.
Vous avez co-réalisé.
On était cinq. Hein.
Emmanuel Roux, Patricia Toranchon, il y a une chose qui vous rassemble, c'est les lieux du crime. Vous consacrez un chapitre, Emmanuel Roux, au rapport à l'espace et au temps. Et vous écrivez, Emmanuel Emmanuel Roux, qu'au fur et à mesure que l'affaire criminelle s'inscrit dans la mémoire collective, s'esquisse une géographie de l'affaire criminelle. Alors, le grand bornant, c'est évidemment l'affaire David Othia, Xavier Flactif. Montigny-les-Metz, c'est l'assassinat de deux garçons à l'origine de l'erreur judiciaire dont Patrick Dils fut victime à l'âge de 16 ans. Roquebrune sur Argence, Xavier Dupont de Ligonnès. Mougins, c'est l'affaire Omar Haddad. La Vologne, l'affaire Grégory.
Oui, le lieu, finalement, où a eu lieu le crime, devient le lieu du crime. C'est-à-dire, le lieu devient fabriqué lui-même par le crime. Tant et si bien qu'on a, par exemple, une commune, j'ai cité Bruyères-en-Artois, qui a décidé une quinzaine d'années après l'assassinat de la petite Brigitte, la fille de mineur, etc., de changer de nom, de s'appeler Bruay-la-Bussière, donc de fusionner avec une petite commune. Tant, d'une certaine manière, le crime avait imprégné l'identité même de la commune. Et on pourrait parler des bords du Serein avec Émile Louis, vous avez cité évidemment le Grand Bornand. C'est vrai que tous ces lieux sont aujourd'hui dans la mémoire collective, évoquent finalement le crime. On pourrait d'ailleurs se demander pourquoi plus de communes ne cherchent pas aussi à changer de nom.
Et même intérêt...
L'épanche sur Vologne veut changer de nom maintenant.
Même intérêt pour le lieu du crime, Patricia Toranchot. Et vous écrivez une chose très vraie. Lorsque le fait divers frappe les grandes villes, la mémoire collective retient les patronymes des criminels, mais quand la tragédie s'abat sur une petite commune inconnue des Français, son nom surgit et est suriné dans l'actualité et restera dans les annales du crime, entaché à jamais. Évidemment, on pense à Outreau, à Mazan ou encore au Grand Bornand.
Oui, et moi, dans mon livre, j'en ai retenu trois sur lesquels j'avais fait des articles à l'époque, qui étaient Mourmelon dans la Marne, où l'adjudant Chanal, dans les années 80, enlevait et tuait des autostoppeurs, ou des bidasses, des soldats. Et je suis allée... Et alors, Mourmelon essaye, j'y suis retournée, de devenir ville fleurie. Donc, ils ont distribué des graines à tous les habitants pour que devenir une ville fleurie, ils ont remporté le concours. Mais c'est, voilà, pour essayer de se dégager de cette image. Et je suis allée aussi à Donchéry, dans les Ardennes, là où Fourniret avait acheté son grand château dans lequel il a enterré deux jeunes filles. Et ça, ils s'en remettent pas non plus. Et Villeneuve-sur-Yonne, alors là, dans l'Yonne, carrément, Villeneuve-sur-Yonne, c'est terrible, parce qu'ils ont eu à la fois le docteur Petiot, qui a été médecin, le bon docteur Petiot, de 1922 à 1932, et il y a encore la maison et le cabinet du docteur Petiot. Il avait volé, il avait probablement tué là sa bonne qu'il avait mise enceinte. Et Villeneuve-sur-Yonne, ils ont aussi Jean-Pierre Trébert, leur garde-chasse, qui a tué la fille Giraud et son amie Katia Lherbier. Et c'est dans l'Yonne où a sévi aussi Émile Louis, le tueur en série, qui s'en prenait à des filles de la DAS.
Et aujourd'hui, on a Chevaline.
Oui.
Et le parking du Martinet, c'est ce lieu, tout petit parking, au fond de la Combe-d'Ire, quelques mètres carrés, qui cristallise finalement l'énigme absolue du moment.
Oui.
Et avec l'horreur des pèlerinages aussi, des gens qui viennent voir, qui passent devant la maison de Ligonnès, qui restent devant. À Chevaline, j'imagine que ça doit être aussi un défilé pas possible.
Et Emmanuel Roux, pour terminer, l'ultime scène du crime, c'est quand même le procès criminel. Vous consacrez un chapitre à ce procès criminel. On ne reviendra pas évidemment sur la dimension dramaturgique du procès d'assises, mais le procès qui est propice au coup de théâtre que nous attendons, guettons, parfois anticipons en retenant notre souffle, écrivez-vous.
Ce qui est très intéressant avec le procès, c'est qu'en fait, on refait toute l'instruction, mais à l'oral. Un témoin ne peut pas venir réciter quelque chose qu'il aurait écrit. Tout le monde doit restituer l'instruction, et on attend de cette oralité le jaillissement de la vérité, qui parfois arrive, parfois non. On parlait de David Othia. David Othia, c'est l'exemple même de l'accusé qui s'enferme complètement en lui-même, qui refuse l'accès
à la vérité. Qui assassine Xavier Flactif et toute sa famille.
Toute sa famille.
Par jalousie, par envie.
Oui, par volonté, par le crime crapuleux. Ouais. Pour lui piquer son chalet, lui piquer ses DVD, pour résister à une forme d'humiliation, parce que Xavier Flactif le faisait bouger de chalet en chalet, etc. Et c'est évident, c'est lui le criminel, tout le désigne, mais il reste enfermé en lui-même. Et on attend ce moment, on attend à la fois le surgissement de la vérité et puis le surgissement de l'humanité. C'est-à-dire le moment, comme Guy Georges, on l'a dit tout à l'heure, dire oui, c'est moi, et d'ailleurs il faut maintenant que je m'interroge sur ce qui en moi
provoque ça.
Ouais.
Merci beaucoup Patricia Touranchot, je recommande
Merci.
Votre recueil d'articles, rubrique Faits divers au seuil, c'est absolument passionnant. Merci Emmanuel Roux, c'est tout autant passionnant. Le goût du crime, enquête sur le pouvoir d'attraction des affaires criminelles avec votre frère Mathias Roux, chez Actes Sud. Nicolas Caro, votre roman truculent, l'affaire Alfred Langevin, c'est Merci publié chez Jean-Claude Lattès.
Rends bien vous fasse un podcast France Inter.